VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est 5h en temps universel. Bonjour, bienvenue. On commence donc par le Burundi. La décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine d'autoriser l'envoi d'une mission de 5000 hommes dans le pays pour enrayer les violences a été rejetée dimanche par le gouvernement de Pierre Nkurunziza. Si elle est déployée sans l'aval de Bujumbura, cette force sera considérée comme une force d'invasion et d'occupation, a dit un responsable cité par l'AFP. Dans la classe politique, les avis sont partagés. Paul Nkunzi Mana dirige le PTD, le Parti des travailleurs et de la démocratie. Il souhaite plutôt un dialogue inter-burundais et met en doute la capacité d'une force régionale à ramener la paix au Burundi. On l'écoute.
Pourquoi des troupes régionales alors que nous avons des troupes à l'étranger ? Il s'agit de piétiner la souveraineté de ces pays. C'est-à-dire que les puissances étrangères ont décidé de piétiner la souveraineté du peuple somalien. Les puissances étrangères ont décidé de piétiner la souveraineté du peuple centrafricain. En RDC, vous avez en fait des troupes de l'ONU, la MINUSCO, qui compte plus de 20 000. Cette force de 5 000, qu'est-ce qu'elle va faire pour le maintien de la paix ? Alors que nous avons plus de 10 000 à l'étranger.
Paul Nkunzi Mana, joint à Bujumbura. Dans l'opposition, la réaction à la voix éventuelle d'une force africaine au Burundi est positive. Odifax Ndabi Torere est un ancien candidat à la présidence.
Ce ne serait pas seulement une bonne chose, mais ce serait salutaire pour le Burundi à l'heure actuelle. Quand on regarde le déroulement des événements, au Burundi, il y a eu plusieurs morts depuis 2005, donc des personnes qui ont été jetées dans plusieurs rivières. Il y a eu des personnes qui ont été tuées en 2010 à Gatumba et plusieurs membres du parti FNL qui ont été tués après les élections de 2010, mais aussi les assassinats de trois sœurs qui ont été décapitées. Ça veut dire qu'au Burundi, les massacres ont continué à grande échelle, bien sûr, et au moment où je vous parle, les massacres ont pris un autre élan. Et cela démontre que le gouvernement burundais lui-même n'est pas en mesure de pouvoir arrêter ce qui est en train de se passer.
Odifar Sindabidorere, joint à Amsterdam par Chérubin Dorsil. En Centrafrique, plus qu'une semaine pour l'élection présidentielle qui aura lieu le 27 décembre précisément. Un scrutin couplé aux législatives est crucial pour la sortie de crise en RCA. Sur place, les candidats s'activent en vue de convaincre les électeurs. Retrouvons à Bangui notre correspondant Freeman Sipila.
Ce lundi, la campagne électorale entre dans sa deuxième semaine et dernière ligne droite avant le premier tour du 27 décembre. Les candidats qui étaient jusque-là peu visibles sur la scène multiplient depuis ce week-end des meetings et des caravanes à travers la ville de Bangui. Les quartiers généraux ou comités de soutien se rivalisent en instruments musicaux, créant un véritable vacarme, surtout la nuit dans les quartiers. Parmi les 30 candidats à la présidentielle, 4 seulement ont le courage pour battre campagne dans certaines villes de l'intérieur du pays, contrôlés pour la plupart par des groupes armés. Difficile pour l'instant de faire un pronostic, car certains électeurs que nous avons interrogés ne savent pas encore qui voter pour mettre à la tête du pays. Alors que la campagne électorale est à sa deuxième semaine, 9 candidats aux législatives recalés par l'Autorité nationale des élections ont été autorisés ce dimanche par le tribunal administratif à revenir dans la course. Les différents candidats ont jusqu'au 25 décembre à minuit pour tenter de convaincre les quelques 2 millions d'électeurs centrafricains attendu aux urnes le dimanche prochain. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
L'émissaire de l'ONU pour la Libye a indiqué dimanche que des contacts avaient été établis à Tripoli avec des responsables de la sécurité, notamment des milices, en vue d'installer le gouvernement d'union nationale dans la capitale. Martin Kobler, qui a pris ses fonctions à la tête de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, la MANUL, en novembre dernier, a indiqué que le général italien Paolo Serra était en charge des négociations avec les responsables de sécurité à Tripoli. Au Yémen, le cessez-le-feu a été prolongé pour une semaine alors que les partie en conflit se prépare pour une nouvelle rencontre sous l'égide de l'ONU le 14 janvier prochain. Cette trêve fragile devrait expirer ce lundi dans la soirée, mais elle restera en vigueur encore 7 jours, a annoncé le chef de la délégation gouvernementale Abdelmalak Al-Meklafi. Et puis pour terminer, l'accord de paix entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC ne sera pas signé en mars prochain, comme annoncé par les deux parties, a affirmé dimanche un négociateur des FARC dans une interview télévisée. Le 23 septembre, le président colombien Juan Manuel Santos s'était engagé à signer la paix dans les 6 mois avec le suprême, la plus vieille rébellion du pays. Merci de nous avoir suivis. Prochain journal dans 25 minutes avec Anastasie Toujiège à Alberson. A tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.